la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour et merci de nous retrouver. Nous sommes le mardi 14 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Va-t-on vivre un nouvel effet domino comme celui de la crise financière de 2008? Les États-Unis font face à la fermeture de 3 banques en moins d'une semaine. Les investisseurs sont inquiets, mais la situation n'est pas la même. Le secteur du capital risque menace de quitter la Belgique massivement. Si la proposition de réforme fiscale du ministre des Finances passe, elle pourrait mettre à mal leur système avantageux. Des châtelains qui vendent un vieux livre en Belgique alors qu'il a été retrouvé en France, ça sème la zizanie. Il faut dire que l'ouvrage est une pièce très rare qui coûte des millions d'euros. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, c'est info, dès 7h.
C'est un vent de panique qui a soufflé hier sur les marchés financiers. Les principaux indices boursiers européens ont lourdement chuté, alors que dans leur sillage, Wall Street a terminé en ordre dispersé, rattrapé par la bonne tenue des valeurs défensives, car si on ne prend que les banques, c'est la chute nette. Les investisseurs sont inquiets, les États-Unis font face à la déroute de 3 banques. Il y a 6 jours, la Silvergate Bank, proche du milieu des cryptos, annonçait sa liquidation, suivie de près par la Silicon Valley Bank, spécialisée dans les startups, contrainte de déposer le bilan. Enfin, la Signature Bank dimanche. Bonjour Gilles Quastiot.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes journaliste à l'Écho et vous vous intéressez de près au secteur bancaire. Vous traitez le dossier pour nous. La chute de la Silicon Valley Bank signe la 2e plus grosse faillite bancaire aux États-Unis. Dites-nous comment cette situation a pu arriver.
Alors, il y a 2 raisons principales qui expliquent cette faillite. La première, c'est une trop forte exposition aux startups technologiques. Et il faut savoir que le secteur des startups technologiques est un petit peu malmené ces derniers temps. Et donc, les startups ont fait beaucoup appel à ces dépôts. Elles ont brûlé le cash de façon un petit peu plus importante que les années précédentes, ce qui a fait que bien elles ont retiré de plus en plus ces dépôts des comptes de la banque. Le résultat, c'est une sorte de bank run ces derniers temps, c'est-à-dire de plus en plus de clients qui ont réclamé leur argent parce qu'ils ont vu que la banque avait des difficultés et risquait peut-être de ne plus pouvoir rembourser les déposants.
Et la deuxième cause alors?
La deuxième cause de cette faillite, c'est que cette banque n'a pas réussi à convertir les dépôts qu'elle a en compte en prêts à d'autres entreprises. Et donc, elle a été obligée d'investir du coup dans des obligations, dans des bons d'État américains. Et avec la période de hausse des taux qu'on connaît actuellement, eh bien, cette opération elle s'est avérée déficitaire. Et donc, il y a des pertes assez importantes qui se sont creusées. Elle a essayé de lever des capitaux pour essayer de renflouer un petit peu ses caisses, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, toute une série d'investisseurs importants de la Silicon Valley ont commencé à prévenir les dirigeants de start-up que peut-être qu'ils devraient songer à retirer leur bille de cette banque, ce qui a provoqué ce fameux bank run.
Merci Gilles Quastiot pour toutes ces explications. Il y a comme un sentiment déjà vu dans cette histoire. Souvenez-vous, en 2008, le système bancaire mondial s'effondrait lors de la crise des subprimes. Alors, risque-t-on à nouveau une propagation d'une telle ampleur ou peut-on balayer d'un revers de main toute inquiétude car les faillites ne touchent que des établissements loin de chez nous? Nous avons posé la question à Serge Quadbach, rédacteur en chef adjoint à l'Écho, qui la détaille dans son édito du jour.
Alors non, il ne faut pas balayer les inquiétudes. Alors on voit ici le problème de la Silicon Valley Bank est assez circonscrit, mais ça pose quand même des questions, et notamment sur la régulation bancaire aux États-Unis. Alors il faut savoir que sous la présidence de Donald Trump, le Congrès a allégé cette régulation. Ils ont relevé en fait le seuil en dessous duquel un établissement américain doit être régulé, qui a fait en sorte que la Silicon Valley Bank est passée complètement sous les radars. La deuxième raison, c'est que la hausse des taux et le rythme surtout de cette hausse des taux a un impact déjà aujourd'hui sur l'économie. Cette hausse des taux sur resserrement monétaire prend en ciseaux des marchés qui ont été inondés par des liquidités qui étaient là pour pallier les effets de la précédente crise financière. Ces liquidités ont créé des bulles financières dont on ne perçoit pas encore bien l'étendue. Et donc là, il peut y avoir en fait un problème qui peut avoir un effet beaucoup plus dévastateur sur la finance mondiale. Donc vous le voyez, ici, on marche un peu sur des œufs. Il faudra que les banquiers centraux et les régulateurs soient vraiment vigilants à chacune des hausses de taux. Eh bien, on risque de recréer encore une instabilité financière telle que celle-ci.
Le projet de réforme fiscale du ministre des Finances Vincent Van Petegem ne fait décidément pas que des heureux. Le secteur du capital risque a du mal à le digérer. Pour les moins aguerris, le domaine dont on parle, ce sont des investisseurs qui financent de jeunes entreprises à haut potentiel de croissance. Et avec ce projet du ministre, le régime fiscalement avantageux dont ils bénéficient est menacé. Alors certains gros bonnets n'hésitent pas à prévenir qu'ils vont se délocaliser si le texte passe tel quel. Yann Alexander est secrétaire général de la BVA, l'association belge des acteurs du capital risque. Il nous explique l'étendue du problème.
Je suis la voix du secteur et j'entends pas mal de gérants de fonds importants qui sont sérieux et qui vont prendre leurs valises. C'est très important pour l'économie parce que nous sommes un pays de start-up, mais aussi de PME. Et le mix de financement n'est pas seulement un financement bancaire. Le financement de capital privé est devenu très, très important. Et s'il y a beaucoup de gérants, d'investisseurs de fonds qui disparaissent en Belgique, il y aura moins de capital disponible pour nos entreprises.
Et l'un des autres gros dossiers sur la table de la Vivaldi en ce moment, c'est son premier ajustement budgétaire. Le gouvernement fédéral n'attend plus que le rapport du comité de monitoring pour s'y mettre, c'est-à-dire démarrer le conclave qui s'y penche dès le week-end prochain. Il y a à peine 4 jours, l'agence de notation Fitch mettait son grain de sel dans le débat en abaissant la perspective de sa note de stable à négative pour notre pays. Un signal d'alerte qui devrait résonner dans les oreilles de nos dirigeants politiques, même si les finances de la Belgique affichent une cotation très respectable AAA-. L'agence de notation pointe en particulier comme problématique le coût du vieillissement et le poids de l'indexation automatique des salaires de la fonction publique. Des réformes structurelles sont réclamées, ce qui ne devrait pas aboutir. Nous sommes trop proches des prochaines élections et personne ne semble vouloir se mouiller. Le conclave budgétaire s'annonce donc délicat, même si, ouf, la réforme de la fiscalité et celle des pensions n'entreront pas dans ce débat-là. Je vais maintenant vous parler d'une entreprise menacée de disparition, malgré les commandes, son savoir-faire et apparemment une activité sans perte. Il s'agit de la forge Allo Steel Rings à Seraing. Cela fait 7 mois qu'elle est en liquidation volontaire. Depuis que le groupe John Cockerill, qui devait la reprendre, a fait faux bond au dernier moment, 2 jours avant la signature du deal, sans aucune explication. Depuis, Allo Steel Rings espère encore un partenaire industriel pour reprendre ses actifs, mais personne ne semble se décider. En attendant, les 65 employés de l'entreprise continuent à approvisionner les clients en anneaux et en couronnes d'acier, mais ils ne pourraient le faire que quelques semaines encore, faute de liquidité selon une source à la direction. L'heure est grave pour Allo Steel Rings, qui en plus doit trouver 5 millions d'euros pour redémarrer, remettre ses machines à jour et reconstituer les stocks. Avis aux amateurs. La Wallonie investit dans les aliments du futur. La région a retenu 3 projets récemment, qu'elle finance à hauteur de près de 12 millions d'euros dans le cadre du programme Foodwall. Le premier, Microboost, s'intéresse aux écosystèmes microbiens. Le deuxième, PeptiBoost, cherche du côté de l'alimentation santé. Et le troisième, ProteBoost, développe des technologies de rupture dans la production, la conservation et la transformation de biomasse. Ce programme Foodwall rassemble les 5 universités francophones du pays, 4 centres de recherche et le pôle de compétitivité Wagralim. Bref, toutes les forces vives réunies pour booster le secteur en Wallonie et s'imposer à l'international. En quoi est-ce important pour la région de soutenir l'innovation dans le domaine? Le professeur de l'UC Louvain, Yvan Larondelle, qui coordonne le programme, nous répond.
Le secteur alimentaire en Wallonie est un des premiers secteurs économiques. C'est également un secteur qui est en permanente croissance. La Wallonie, la Belgique en général, mais la Wallonie en singulièrement, a toujours été pionnière dans le domaine des aliments santé, ce qu'on appelait à l'époque les aliments fonctionnels. Et donc, il y a un grand potentiel de développement. Et par ailleurs, il s'agit d'un des secteurs où on peut véritablement améliorer notre impact sur l'environnement. C'est une des raisons, certainement, pour lesquelles la région Wallonne a choisi le secteur des chaînes alimentaires du futur dans les 5 domaines d'innovation stratégique pour les prochaines années.
Et la prochaine étape, c'est la création d'un institut virtuel regroupant l'ensemble des acteurs du domaine afin de développer la recherche en Wallonie et attirer chez nous des chercheurs internationaux. Quand ils en héritent, en France, dans l'Yonne, il y a 10 ans, le château est impressionnant mais son toit est en mauvais état, il faut le restaurer. Alors, Marc et Henri Grandénon cherchent des fonds et veulent vendre quelques objets de la belle demeure. C'est ainsi qu'un expert de la salle de vente Milon à Bruxelles tombe sur un livre épais. Le vieux manuscrit est enrichi d'enluminures très fines. Il est estimé entre 400 000 et 600 000 euros. Il est vendu quelque temps après à Bruxelles, bien au-delà de son estimation initiale, et finit alors par attirer l'attention des autorités françaises. Nicolas Kessey, vous avez suivi le dernier rebondissement de l'affaire au tribunal de première instance de Bruxelles.
Oui, effectivement, le manuscrit était vendu une première fois à 2,5 millions d'euros à un marchand allemand installé en Suisse, qui lui-même a fait une nouvelle expertise qui a duré 3 ans et qui a coûté assez cher et qui a révélé que le manuscrit en question était bien de la main des frères de Limbourg qui sont considérés par le milieu comme le Léonard de Vinci de l'enluminure. Donc là, le manuscrit prend beaucoup plus de valeur. Il est proposé à la vente une première fois à la foire d'art de Maastricht à 12 millions d'euros. Et finalement, il sera vendu 10 millions de francs suisses à un client resté inconnu à ce jour.
Mais pourquoi la vente de cet ouvrage est-elle contestée devant la justice belge ?
Toutes les parties viennent avec des nouvelles demandes. La France entre dans la danse. Elle a décrété que ce manuscrit est un trésor national. Elle veut exercer maintenant un droit de préemption et d'acquisition. Les frères qui ont vendu le livre à plus de 2 millions d'euros aujourd'hui, ben, ils veulent leur part du gâteau. Si le livre vaut réellement 10 à 12 millions d'euros, ben, ils veulent être dédommagés. Et le marchand suisse qui l'a vendu ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il dit « si la vente est annulée, moi je veux récupérer évidemment mes frais et je dois rembourser mon client final ».
Quelle pelote de fil ! Bon bah voilà, à part les problèmes que cela peut engendrer, je vous invite donc à fouiller votre grenier, on ne sait jamais, et au pire, vous aurez effectué un bon ménage de printemps. Et puis n'oubliez pas, pour ceux qui s'intéressent au secteur de la construction et de la rénovation, que c'est le début du salon Batibo aujourd'hui à Bruxelles Expo. Sur ce, je vous laisse reprendre vos occupations. Ce brief a été préparé par Andino RS. Pour ma part, je vous dis à demain.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.